à bout de souffle. Vincent Dupont occupe dans le paysage chorégraphique une place singulière de par l'importance dans ses pièces du son, de l'image et du texte. Son travail se concentre sur des matériaux qui contournent l'équilibre sensoriel des spectateurs, créant un trouble de la perception. Sa nouvelle création, Au cri, est basée sur un texte d'Agrippa d'Aubigné, travaille différentes échelles des représentations de l'espace et du son pour révéler un état intérieur lié au cri. Un état qui n'est pas la peur, mais une protestation véhémente. Un long cri aigu. Il est seul, dans un espace trop petit pour lui, et chacun de ses mouvements résonne de façon extraordinaire, comme si chaque déplacement, aussi petit soit-il, était lesté d'une tension énorme. Autour de lui, l'espace convivial d'une salle à manger semble écrasé par sa présence et prêt à voler en éclats. Entre cet espace et le public, un tronc d'arbre repose sur le sol et sert de projection à un poème d'Agrippa d'Aubigné. Frappé par le danseur à la fin du poème, le tronc d'arbre se révélera être un tambour de bois. Peut-être s'agit-il de trouver une musicalité physique au poème, une sorte de contrepoint polyphonique, corps, voix, bruitage, à ces alexandrins chargés d'horreur et de révolte. Peut-être s'agit-il aussi de trouver un espace, comme ces miniatures de l'époque médiévale peintes sur un bout de bois, qui libère le subconscient de ses traumatismes et l'aide à transformer sa plainte en un long cri aigu, strident et inarticulé. C'est en s'appuyant sur les écrits d'Artaud et de Jean-Paul Curnier que nous avons réalisé l'entretien qui va suivre avec Vincent Dupont. Pour aborder avec lui le spectacle Au cri qu'il a présenté à l'édition 2007 du festival transchorégraphique organisé par le CCNT. À partir du cri, nous verrons comment la danse contemporaine s'approprie dans ce spectacle le texte pour y réaliser un théâtre cher à Artaud. Un théâtre fait de chair, débarrassé de tout psychologisme.
Vincent Dupont, bonjour.
Bonjour.
On vous avait présenté hier au Festival Transchorégraphique la création Au cri. Et en sortant de ce spectacle, on a pensé à Artaud. Et surtout à un moment où au théâtre du Vieux Colombier, il crie. Et il dit: j'ai crié parce que je n'avais pas de bombe. Et ça nous a fait penser à un moment dans le spectacle, juste avant où vous sortez la tronçonneuse. Elle est dans une mallette comme un canon dirigé vers le public. Et comme si là se résumait tout le spectacle aussi.
Artaud, oui, j'ai pas pensé à Artaud en faisant ce spectacle, mais j'aime beaucoup cette référence, bien sûr, ça me gêne pas du tout, au contraire. On sait de toute façon, quand on travaille sur le cri, que Artaud, de toute façon, est une donnée historique, on va dire, et fondamentale, mais... J'ai pas pensé à lui en créant ce spectacle. J'ai plus pensé en fait à ce qu'on appelle des miniatures au Moyen-Âge, c'est-à-dire des sortes de peintures peintes sur un bout de bois et qui résument comme ça des scènes importantes, parfois aussi quotidiennes. Avec des personnages dessinés très simplement, presque naïfs, avec un rapport d'échelle dans l'image qui est parfois pas tout à fait juste. Mais par contre, ce sont des objets qui se lisent très facilement. Et on peut se rentrer dedans très facilement. Et je suis parti un peu de cette idée de faire un objet dans lequel le public, en l'occurrence, puisse se projeter facilement, que l'espace entre leur fauteuil et l'espace scénique et l'objet puisse être le plus facile possible.
C'est vrai qu'on a travaillé autour de comment, même si vous n'y avez pas pensé, mais comment Arto a pu, en tout cas nous aider à penser ce spectacle. Et peut-être continuer sur cette phrase de Jean-Paul Curnier à propos d'Arto. Le destin de tous semble désormais préparé de telle manière que nous ne devrions bientôt plus avoir d'autres alternatives face à la disciplinarisation et à l'encadrement forcené de ce monde que celle d'une violence au moins égale à celle qui est faite quotidiennement à chacun pour retrouver le lien avec une vérité de l'homme toujours plus enfouie et toujours plus maudite. Comme si il s'agissait de se faire violence à soi-même.
Oui, oui, c'est sûrement une quelque chose, oui. C'est les hauts cris, quoi, pour moi. C'est-à-dire que c'est pouvoir retrouver une sensation. J'ai l'impression qu'on perd. Voilà, je le vis comme ça en tout cas. Donc on perd vraiment de plus en plus. De pouvoir réagir physiquement à une violence. Que le corps puisse se mettre en jeu, ne soit pas bloqué, bridé, et se permettre de réagir jusqu'à pousser un cri, en l'occurrence. Et ce spectacle essaye de parler de ça, essaye de parler de peut-être ce cri un peu oublié, quoi, et qu'on a besoin de reparcourir. Voilà, moi je propose un parcours pour essayer de retrouver des sensations qui rapprochent de ça, quoi.
Retrouver son actualité au monde.
Ouais, un moment, arriver à déterminer un moment où on est présent. Parce que je pense que la force principale quand même de l'acte scénique, c'est de pouvoir travailler sur un temps qui est un temps présent, un temps vraiment d'échange en présence. Et ça, c'est encore, je pense, une force énorme actuellement d'avoir cet espace-là pour pouvoir faire des tentatives avec des gens qui regardent.
La miniature, ça m'a aussi fait penser, en fait, comme si j'avais affaire déjà à ma propre histoire, comme si j'allais voir ma propre histoire, c'est-à-dire que me dire, tiens, je vais voir l'histoire du monde occidental. Mais aussi, ça m'a fait penser à une maison de poupée de l'horreur. C'est-à-dire qu'il y a le choix de l'ameublement, en fait, me rappelle quelque chose de familier. Le familier, normalement, c'est quelque chose qui me réconforte. Et en même temps, par un problème de démesure, je suis face à quelque chose d'inquiétant, en fait. Et comme si ce corps, en fait, allait casser cette... il casse cette maison, alors qu'il a dû, je vais parler, trimer... pour l'avoir, quoi. Se soumettre à une société pour avoir ce meuble, quoi. Et il les casse.
C'est... je pense que ce qui joue beaucoup pour ça, c'est l'idée, en fait, d'échelle à l'intérieur du décor. C'est-à-dire qu'on a construit le décor d'abord en perspective accentuée. C'est-à-dire que tous les meubles, les chaises, la table, rien n'est droit, en fait. Tout est dans une ligne de fuite qui va derrière le décor, en fait. C'est une perspective accentuée, qui est vraiment un truc de théâtre, hein, enfin vraiment un outil du théâtre.
Ce qui donne l'impression que tout est plus petit que le corps.
Quoi. Et alors ce qui se passe, c'est qu'après, toute l'échelle normale de cet espace-là, on l'a réduit à peu près d'un tiers. C'est-à-dire qu'on a tout construit un tiers plus petit que la réalité. La table, les chaises, le meuble... un espace comme ça qui soit légèrement trop petit, pas vraiment, on sent pas vraiment une réduction complètement, mais que, en tout cas, moi dedans, on a l'impression que je mesure presque 2m10 quand je suis au fond du décor, par rapport à l'échelle. Voilà.
Oui, on est dans le trop. Hein.
Voilà, un trop plein.
Pour continuer sur ce que dit Amandine sur cette inquiétante étrangeté et sur cette familiarité, ce qui nous est familier, c'est aussi ce qui nous est familier à tous. On voulait savoir comment vous avez travaillé ce matériau de ce qui nous est familier. Il y a bien sûr le décor avec ce salon pauvre commun finalement, mais aussi peut-être cette saturation du son comme le bruit du monde. On voulait savoir comment, et l'habit aussi, un habit simple aussi. Voilà, comment ce qui nous est familier, vous l'avez pris comme matériau, ce qui nous est familier du monde, quoi, pour travailler.
Je pense qu'il faut arriver à définir en fait une sorte d'objet effectivement reconnaissable, enfin facilement, en tout cas sur ce projet-là, j'avais vraiment envie de ça, comme je disais tout à l'heure, qu'on puisse se projeter dedans très, très facilement, que ce soit une salle à manger, c'est vraiment un lieu commun, c'est un lieu voilà, de référence, qui peut être chargé de plein de choses très différentes, des très bons moments comme des beaucoup moins bons, des moments de partage en général, et des fois des moments de violence aussi, enfin voilà. Et après, j'ai vraiment besoin de ça dans mon travail, de passer par un filtre de quelque chose pour arriver à peut-être cerner plus ce que je cherche, de le définir un peu plus. Donc à partir de ces objets finalement familiers qui sont mon corps, ma voix et l'espace, j'essaye de les filtrer séparément chacun d'eux et de les associer ensemble après avoir fait des choix, pour essayer de redéfinir un espace peut-être essayer de chercher un autre espace, voilà, peut-être où le corps peut-être aurait une autre possibilité de vivre, de s'exprimer, de bouger,
trouver un ailleurs.
C'est peut-être ainsi que vous envisagez l'art, parce que s'appuyer sur le Moyen-Âge, c'était une façon de vivre l'art qui était comme un reflet du monde, enfin une proximité. Oui, il y avait une proximité dans la façon de vivre l'art qu'on n'a plus forcément aujourd'hui. Et j'ai trouvé extrêmement pertinent ce que vous avez dit hier soir à la rencontre. Pourquoi le choix des Alexandrins ? Parce qu'il y a un poème d'Agrippa d'Aubigné. Et c'est une époque où on écrit encore en alexandrin. C'est aussi une époque où tout un peuple se reconnaît dans l'alexandrin, dans le rythme, et chacun l'a dans son corps. Et finalement, dans le fait de plus avoir de texte directement, plus avoir de psychologie, du coup, c'est comme le texte n'est plus proféré, enfin ne porte plus un sens, mais il est comme incorporé. C'est-à-dire que c'est retrouver aussi ce commun qu'il y a eu à un moment dans un rythme qui est cet alexandrin et dans lequel tout le monde pouvait se projeter. Parce que c'est vrai que Rimbaud, en fait, en enlevant la césure, a créé un gouffre en fait entre la poésie et le monde, le peuple. Et là, c'est comme si aussi il y avait cette recherche-là, quoi, de refaire lien avec le monde, sachant que le danseur sur scène n'a plus le lien, quoi. Il parle à un radiateur, il parle plus, même. Il crie. Et sachant que vous êtes né à Amboise, c'est comme si la même ville que Agrippa d'Aubigné.
Je suis pas né à Amboise, mais je suis arrivé à Amboise très petit. Ouais.
C'est comme si en fait, oui, ça avait germé dans tout un corps, quoi. C'est ça qui est fascinant dans ce spectacle. C'est même quand il y a, oui, le texte n'est pas reconnaissable, mais il est dans un corps, quoi.
En fait, je me méfie toujours du texte. Je me méfie du texte pour différentes raisons, mais la raison principale peut-être, c'est que je trouve que des fois le texte sur un plateau, en tout cas je parle vraiment sur un plateau, pourquoi mettre un texte sur un plateau, tout ça, voilà, a tendance à manger tout. À manger, je trouve, le corps des acteurs, le corps des danseurs, le corps de l'espace, voilà. Et le point de départ de mes projets, des fois, est un texte, comme en l'occurrence là, mais j'étais pas sûr de le projeter puisque quelques jours avant la première. C'était pas l'enjeu principal n'était pas dans le texte, même s'il m'a inspiré pour commencer à penser à ce projet. C'est pas la colonne vertébrale de ce spectacle. Et je pense que pouvoir inscrire actuellement un texte sur un plateau en dehors d'une référence au théâtre dans lequel on est envahi tout le temps, moi c'est un endroit qui m'intéresse. Et j'ai l'impression que cet endroit-là est un endroit pour entendre un texte intéressant, justement. Qu'un autre endroit, en fait, du texte. C'est-à-dire que le texte n'est pas prédominant sur le plateau, il arrive à la fin, là en l'occurrence, il n'est même pas dit, il est projeté, presque réduit. On essaye, peut-être aussi, quand je parlais tout à l'heure de cette histoire de filtre, j'essaye aussi de le passer par un filtre pour qu'on puisse le recevoir un peu différemment, peut-être. En espérant, évidemment, que ce qu'il y a eu avant va aussi peut-être filtrer aussi ce texte.
Oui, comme si aussi cette réduction du texte, c'était le rendre à sa force comme l'atome, quoi. Ça lui donne une puissance qui déborde même, du coup, peut-être, tout ce qui s'est passé avant. C'est là où on retrouve sa notion physique, quoi, du texte. Le texte n'est plus porté par un personnage au sens du théâtre, et on n'est pas, du coup, dans la psychologie. Et c'est peut-être pour ça que ce spectacle-là, on l'a dans un festival de danse, et que Okri, c'est la danse. Peut-être que les choses se situent là.
Je pense que effectivement, en ce moment, en tout cas, l'espace de la danse est un espace plus riche et plus en proposition, et un espace sûrement aussi en tentative, plus évident en fait que le théâtre, et que les danseurs n'ont plus peur du texte comme ils pouvaient avoir à une époque. Je sens, enfin en tout cas moi je le vis comme ça. Et je pense que ça crée une autre possibilité de pouvoir percevoir du texte sur un plateau.
Il y a une errance du corps dans cet appartement. Moi, je me disais, l'errance qui est la recherche de la date ou le lieu ou le temps où il y aurait eu une capitulation. Mais on sent ce corps errer à quatre pattes autour de la table. Peut-être vous pouvez nous parler de cette errance.
Je suis très intéressé par tout ce qui est lié au mouvement dans un rapport à la vitesse, à savoir travailler sur des vitesses différentes, sur des vitesses, en l'occurrence, pour Okri, des vitesses qui sont réduites, vraiment, mais qui sont toujours dans un mouvement. Il n'y a pas de moment statique, purement statique. Je ne sais même pas si ça existe vraiment, en fait. Et donc en étant dans des vitesses différentes et en même temps en produisant du son en pratiquement en permanence, donc pendant 50 minutes, le corps obligatoirement je joue sa présence avec le son, à la fois à l'intérieur et dans l'espace. Et du coup, je le vois comme ça, j'ai l'impression que ça place le corps aussi à un endroit légèrement différent dans le regard, dans la présence. Et cet endroit-là de la présence m'intéresse vraiment. Pouvoir travailler sur des vitesses liées à des sons, à un espace. C'est assez passionnant.
Parce qu'il faut dire qu'on n'a pas encore parlé, mais il y a une lenteur dans ce spectacle. Ce spectacle est que je vais qualifier de violent. Et pourtant, il n'y a pas de violence au sens direct et signifié. Je veux dire, il n'y a pas de gestes brusques, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de corps. même au moment où le personnage casse son appartement, lentement, ouais, tout dans la lenteur. Et peut-être là aussi une étrangeté. Et comme si le personnage avait trouvé sa propre étrangeté pour arriver jusque-là, quoi. Et la lenteur, ce temps-là, permet...
Et la lenteur amène une lucidité, je pense. La lenteur aide. Moi, j'ai vraiment besoin de voir des choses ralentir. J'ai besoin de voir des décompositions de mouvements. J'ai besoin de... En tout cas, ça me nourrit, ça me fait du bien. J'ai besoin de pouvoir freiner les choses pour essayer de travailler sur un temps différent, quoi. Essayer de trouver un temps un peu différent. En étant toujours vigilant, bien sûr, au fait de ne pas tomber dans quelque chose d'ennuyeux. Mais il y a de la marche, faut pas avoir peur, je pense, d'y aller. Je pense qu'il faut trouver une certaine confiance pour pouvoir ralentir. Et je pense que ça nourrit énormément de choses.
La lenteur, finalement, apparaît comme étant monstrueuse, étant donné que c'est pas la norme actuelle. C'est-à-dire que le monstre, c'est aussi ce qui est d'exagéré, en fait, par rapport à une norme. Et là, on arrive à, finalement, prendre le temps de voir chaque chose, créer une tension et rend ce corps monstrueux. Bon, bah, il est déjà grand par rapport au décor, mais là, cette lenteur, c'est le clou, quoi. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? On ne sait plus s'il y a vraiment quelque chose d'humain au bout d'un moment, en fait. On a presque envie de crier aussi, parce qu'on se dit, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, quoi? Puis du coup, c'est vrai que le corps, enfin... Quand il arrive voûté, c'est voilà, on passe de l'humain à l'animalité, au bas, à quelque chose qui rampe, qui grimpe. C'est presque oui, comme le cafard de Kafka, quoi. Pourtant c'est un humain, mais il y a un dégoût qui arrive parce qu'on impossibilité de se reconnaître, alors qu'on sait qu'il y a une reconnaissance aussi. Hein. C'est dans un entre-deux difficile à tenir.
On vous a senti à la fin du spectacle, quand il y a eu la rencontre, vidé. Mais vraiment vidé, quoi.
Oui, vidé, ouais. Ben je pense qu'on se rend pas tellement compte, en fait, en regardant le spectacle, et finalement, c'est tant mieux. Mais en fait, de produire du son et en bougeant, finalement, quand même assez lentement, dans des vitesses un peu différentes, ça fatigue assez vite, en fait, de produire du son en même temps. Au niveau de l'oxygénation, au niveau de la concentration aussi. Oui, ça vide dans le sens où c'est très violent, mais je sors de scène, c'est plutôt libérateur d'une certaine manière. Ouais. Ouais, ça permet quand même de partager quelque chose, quoi, peut-être dans un excès, je sais pas, mais en tout cas dans quelque chose qui essaye d'aller au bout d'un endroit, au bout d'une sensation.
Au début du spectacle, en fait, le danseur se trouve assis sur le tronc. Il regarde le lieu où l'événement va se produire. Le fait qu'il ait une sorte de fixité nous donne à penser qu'il est fasciné. Et effectivement, quand il rentre dans ce décor, il y a tout un jeu sur l'idée de fascination. Un, par le traitement de la lumière, où c'est une lumière néon. Le néon, on sait que quand on rentre dans un magasin, ça travaille notre perception qui fait qu'on est un peu hypnotisé. Deux, le travail de la lumière nous donne aussi à penser la trace du monde télévisuel. C'est-à-dire qu'on ne voit plus une image ou un écran, mais on perçoit ce qui nous reste de cette rapidité de l'image, cette saturation sonore des médias, de ce monde qui appelle constamment à l'intérieur de cette petite boîte. Et en fait, ça travaille toute la pièce jusqu'au moment où le personnage, devant ce qui lui reste d'image, ce tableau, rentre sa tête comme pour fusionner avec la matière, comme pour à son tour s'incorporer cette image qui le fascine. Et c'est comme si à la fin aussi, la lenteur permet de sortir de la fascination du monde afin de pouvoir le penser, ne plus être hanté par lui, mais le reconquérir. Donc du coup aussi à un moment de prendre les choses et de les casser. Bah pour casser le décor, c'est aussi casser l'image, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est entièrement ça. Je ne pourrais pas ajouter grand-chose en plus. À part, ouais, c'est cette chose, c'est à reconquérir. Oui, c'est un espace. Et là, pour moi, qui était vraiment lié au corps, au fait de pouvoir, face à cette somme d'informations qu'on peut recevoir, que ce soit par la télé, là, comme vous disiez, mais aussi par la rue, par notre famille, par plein de choses qui peuvent finalement finir par être assez... rassembler beaucoup d'informations, ça peut être assez lourd à gérer, parfois. J'ai l'impression que cette possibilité de pouvoir encore retrouver cette sensation de pousser Léo Cri, ce que j'appelle Léo Cri, quoi, vraiment. C'est-à-dire voir quelque chose et puis réagir tout de suite, par rapport à cette violence, pas se protéger, essayer de dire bon allez là, c'est insupportable, faut, là c'est hurler ça quoi quelque part, hurler vraiment. J'ai l'impression que c'est pas vain. J'ai l'impression que il y a certaines violences intérieures, on pourrait dire, pour faire attention, mais qui sont nécessaires, je pense, pour pouvoir continuer à découvrir, à avancer un peu, quoi.
C'est là où on reviendrait sur Artaud et sur cette fameuse cruauté, celle qui serait morale et acceptée, celle dont la cruauté est justifiable d'après la loi dite naturelle du marché, et que le reste de la cruauté serait criminel, serait immoral. Comment ne pas penser aussi à ce qui s'est passé dans les banlieues, surgissement de hauts cris finalement aussi, qui est amené à la destruction de leurs propres biens, comme si aussi, parce qu'il y a une idée de suffocation et d'asphyxie dans ce spectacle, par ce personnage trop grand par rapport au décor, et comme s'il existait deux formes d'asphyxie, qui est soit par la privation ou soit par l'excès. Et on est dans les deux sur ce spectacle, à la fois dans la privation et à la fois dans l'excès. Il n'est nullement question ici de la liberté au sens d'une volonté, d'une forme de libre arbitre ou d'un comportement pensée, voulue ou réfléchie, mais de la liberté qu'il s'agit de laisser à ce qui, obéissant à de puissantes forces intérieures, contraintes par les formes sociales, existantes de discipline et d'arraisonnement, porte de toute façon au déchaînement. La liberté de ce qui demande à être ou à ne pas être, et non de ce qui est. Comme si à un moment donné, enfin ce spectacle-là, c'était la liberté de ce qui demandait à être, le surgissement, et du coup une insurrection.
Il faut trouver des espaces, il faut trouver des écritures, il faut trouver des corps, il faut les chercher parce que on a besoin de ça. On sait qu'on dans le spectacle vivant, on peut enfin moi je le vis comme ça, on peut encore y aller quoi. Il y en a encore des petits groupes qui essayent d'y aller, essayent de mélanger ces choses-là pour essayer de formuler, reformuler une projection pour tous quoi, quelque chose qui permette de rassembler, de d'additionner des connaissances, je sais pas, des choses comme ça.
Moi, je souhaitais aussi préciser que donc la chorégraphie et l'interprétation Vincent Dupont, mais au son Thierry Ballas, lumière Yves Godin, assistante Myriam Le Breton, dispositif scénique Vincent Dupont, décor Boris Jean, costume François Blaiseau. Je le précise parce qu'en fait, hier, il y a eu cette précision-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un interprète sur scène, mais tous sont interprètes. Et j'ai trouvé ça très fort de préciser ça, alors qu'il y a eu quelques mois de cela, un grand metteur en scène a décidé de jouer sans ses techniciens, parce que il faisait grève, et donc il s'est dit « mais je peux me passer d'eux ». Et là, je trouve ça vraiment très fort.
Pour préciser, il s'agissait du metteur en scène du Théâtre de la Conine, qui s'appelle Alain Françon, voilà.
Et du coup, en fait... Je veux dire, c'est extrêmement fort, quoi. C'est-à-dire que c'est hautement créatif, c'est un projet commun, c'est esthétiquement, c'est un spectacle très très fort, quoi. Mais autour, en fait, il y a eu vraiment un idéal commun, quoi, qui a été travaillé collectivement, quoi. Et je trouvais que, enfin, c'était important de le préciser.
Tout à fait, ouais. Quand je parle vraiment d'interprète, c'est-à-dire effectivement, c'est je cherche des gens qui travaillent la lumière ou des gens qui travaillent le son ou qui travaillent les costumes avec qui je puisse dialoguer comme avec un interprète sur scène, quoi. Il faut qu'on puisse arriver au même niveau de compréhension et de possibilité. Sinon, il va rester derrière son pupitre et puis les autres sont sur le plateau, quoi. Donc, c'est vrai qu'avec Thierry Ballas et Yves Godin, en particulier Yves pour la lumière et Thierry Ballas pour le son, c'est des gens avec qui je travaille depuis un certain nombre d'années, depuis maintenant 5 ans. Et on a vraiment cherché à chaque fois, dans chaque projet, à pas placer ni la lumière ni le son comme une conduite, quoi. Comme on fait des conduites pour les spectacles, on a vraiment essayé d'abord sur un premier spectacle de travailler vraiment en improvisation avec la lumière aussi, c'est-à-dire laisser la possibilité à la personne qui a la lumière de choisir chaque soir des intensités différentes, des provenances de projecteurs de lumière d'endroits différents, que les danseurs sur scène sont au courant, bien sûr, et jouent avec ça. Et puis nous au son aussi, par exemple, ça c'est un de mes premiers projets qui s'appelait Jachère Improvisation, où on travaille tous en s'écoutant et en essayant de construire un objet en même temps. Voilà. En essayant d'être le plus possible à l'écoute les uns des autres pour pouvoir arriver à construire en même temps. Parce que là c'est vraiment une improvisation. Au cri, là par contre, même si on a écrit on va dire des passages, ça reste en improvisation aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on n'est pas, ils sont jamais fixés à quoi que ce soit. Je ne peux pas les remplacer. Par exemple, si jamais on avait une date de tournée et s'ils n'étaient pas libres, Là, c'est impossible, ni sur jachère, ni sur au cri. Je ne peux pas me passer d'eux. Ils sont indispensables au spectacle. Et puis, je pense que c'est important de pouvoir utiliser vraiment la lumière comme une matière scénique, le son comme une matière scénique aussi, comme la matière du plateau, comme la matière du danseur, comme la matière d'une voix. Tout ça, ce sont ces matières-là, il faut pouvoir les travailler avec le même enthousiasme et les mêmes possibilités, se donner le maximum de possibilités avec. Donc il faut pouvoir travailler avec les gens, dits techniciens en général, ou disons partie technique. Artistiquement, il faut qu'on trouve le moyen de pouvoir parler artistiquement, parce que le but principal, c'est quand même ça, c'est d'arriver à un langage commun pour construire un objet artistique. On est tous pour ça, donc si on ne trouve pas un langage artistique ensemble, on ne va pas y arriver, ça c'est sûr. Et donc il faut aussi, je pense, pouvoir, en l'occurrence dans l'improvisation, moi je trouve ça me satisfait beaucoup pour ça, c'est que ça leur laisse vraiment une place d'interprète à eux au moment où le spectacle se fait. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment en temps réel, quoi, voilà.
C'est vrai que le spectacle n'est jamais le même, du coup. Pas dans son déroulement, mais dans les sons, dans la lumière aussi, peut-être.
Oui, c'est ça, ça crée une certaine fragilité qui, je pense, est indispensable.
Merci.
Merci.
Merci. Nous tenons à remercier Laurent Évrard pour toutes ces pistes qu'il a su nous souffler à nos oreilles. Thank you.